sommes sur Alire FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une exposition qui a lieu à la Cité universitaire et d'un livre qui vient de sortir à la découverte qui s'intitule « La rébellion est-elle passée à droite ?» Et nous sommes avec l'auteur du livre, Pablo Stefanoni, et son éditeur-traducteur, Marc Saint-Huppéry. Et pour commencer, nous allons parler de l'exposition. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Martin Desintes. À toi, Martin.
Merci. Donc oui, moi je vais vous parler de cette exposition et ce livre qui sort, qui accompagne l'exposition à la Cité universitaire, donc qui est en fait là où le CNAI, donc ce centre d'art qui était auparavant à Pantin, qui est maintenant donc à la Cité universitaire, dans les sous-sols de la Cité universitaire, dans le 14e, a donc ses nouveaux bureaux. Alors l'exposition, elle a démarré le 16 octobre et elle se poursuit jusqu'au 16 décembre, ouverte du mercredi au samedi l'après-midi. C'est une exposition avec Antoine Duchenet, Julie Vessière, Lefebvre Jean-Claude, Nicolas Vargelis et moi-même qui, avec Nicolas, nous animons tous les mercredis un kiosque d'édition libre où on propose en fait un espèce de bootleg du livre qui est sorti à cette occasion. Alors, en fait, l'exposition, elle propose des doubles pages de ce livre qui s'appelle « Belle vue » et une partie de la collection des multiples du CNAI. Alors ce livre, le projet de ce livre est né en 2017, donc qui était à cette époque les 20 ans du CNAI, donc ce centre d'art, le CNAI c'est CNEAI, ce qui veut dire Centre National Édition Art Images. Et en fait à ce moment-là, on a commencé à parler d'une possibilité de créer un livre source en fait, avec les textes des gens qui ont pu passer par le CNAI, des gens qui ont fait partie de la constellation en fait du centre d'art et de ses publications. Et puis avec le temps et nos agendas respectifs, pas forcément toujours très libres, ça s'est transformé en un livre qui fêtait les 25 ans en fait du centre d'art, donc les 25 ans qui sont cette année en 2022. Et donc ce livre, il est en fait, enfin la volonté principale de ce livre, c'est de mettre en lumière l'acte de publication comme un acte artistique. Donc ça, c'est un peu la base de ce centre d'art qui, depuis 25 ans, qui à la base s'appelait le Centre de la Gravure Contemporaine, pendant quelques temps, pas très longtemps, et qui donc, depuis ses débuts, se pose la question du multiple, de la diffusion de ses œuvres, de l'édition et de la collection, puisque c'est un des seuls centres d'art à avoir une collection en France. Alors dans ce livre, il y a 250 piles textes, donc des textes courts, des citations, qui sont de à peu près, je dirais, 200 auteurs, autrices, et un texte que nous, on a appelé le scénario, puisqu'il est écrit par un scénariste déjà, qui s'appelle Serge Ellenstein, et qui en fait court sur tout le long du livre, pour parler de l'histoire du CNAI, en fait, et plus largement des gens qui sont passés par le centre d'art. Alors, les textes qui sont présents dans le livre sont issus de toutes sortes d'objets, on va dire, de publications, de conférences, de revues, de journaux, de sites internet, de catalogues d'exposition, mais aussi de romans ou de recueils de poésie. Et ils ont été choisis et curaté, on peut dire, par Sylvie Boulanger, donc qui est la directrice du CNAI, qui a fait voilà la curation de ce livre, puisque comme je le présentais, on le considère presque comme un espace d'exposition en fait avec tous ces textes. Donc ces textes sont issus aussi de champs assez divers, que ce soit de l'ethnologie, de la politique, de l'économie, la sociologie, la philosophie bien sûr, et évidemment du champ de l'art très largement. Mais d'un champ de l'art que, dans ce centre d'art, on veut depuis toujours en dehors du marché, ou en tout cas qui existe parallèlement au marché de l'art, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, la plupart des expositions qui ont eu lieu dans ce centre d'art n'ont pas forcément de volonté mercantile ou financière. C'est aussi une des raisons pour lesquelles dans ce livre, il y a un quasi-anonymat des auteurs et des autrices, puisque chaque texte, ils sont signalés par seulement leurs initiales. Bon, évidemment, à la fin, il y a une bibliographie où on peut retrouver tous les textes qui sont dedans. Mais en fait, c'est des questionnements et des réflexions qui traversent aussi le Centre d'art depuis longtemps sur le mythe de l'originalité, l'unicité de l'œuvre d'art, la signature, qui, à travers la gravure et les multiples, ont pu être développées. Et Sylvie Boulanger, la directrice, a écrit aussi pas mal de textes dessus. Il y avait eu une expo aussi au CNAI en 2018, si je ne dis pas de bêtises, d'Alexandre Périgaud, qui s'appelait « Mon nom et personne », sur la collection des anonymes du MUCEM. Et Sylvie avait écrit, fait beaucoup référence aussi à un texte de Foucault, qui était paru dans Le Monde dans les années 80 sur l'anonymat, où lui disait que pour lui le nom était une facilité et qu'il voulait écrire des textes anonymement pour donner à voir autrement en fait les œuvres. Et c'est vrai que par rapport à l'acte éditorial, à l'édition, la collaboration, la dispersion un peu de l'autorité, c'est quelque chose qui fait complètement sens dans ce genre de projet. Et du coup, directement lié à ça, il y a aussi dans le livre un questionnement sur la valeur en fait de l'œuvre à travers, pour le coût des multiples de l'édition, sa reproductibilité aussi, sa diffusion, les circuits qu'elle peut emprunter sur le marché en fait, parce qu'il y a quand même ça reste un marché. Donc les circuits plus ou moins autonomes qui vivent un peu en parallèle en fait à ce marché un peu officiel de l'art. Et en fait, je pense que la grande proposition un peu qu'on a essayé de faire à travers ce livre, c'est de montrer que l'espace publié, c'est aussi un espace d'exposition et un espace public en fait, que le fait de publier, c'est rendre public. Et que la diffusion, l'acte de diffuser, c'est aussi un acte artistique. Et donc pour ça, je pense que tous les textes qui sont présents dans le livre, d'une manière ou d'une autre, évoquent ces questions, de près ou de loin. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'acte de publier comme un acte fort et un acte artistique. Pour parler un peu de mon rôle en fait dans ce livre, qui est donc moi je suis designer graphique en partie et donc j'ai réalisé le graphisme de ce livre et il est assez particulier puisque c'est un livre qui a un principe graphique à quatre entrées de lecture si on peut dire. Donc en fait il y a un principe de double colonne de texte, un texte qui court sur tout le long du livre comme j'ai dit, donc qu'on a appelé le scénario. Et des images avec les légendes. Et donc ce principe de double colonne, c'est un principe qu'on a déjà vu. Enfin, c'est pas nous qui l'avons inventé, je veux dire, mais nous, on s'est fortement inspiré du GLAD de Derrida, en fait, qui lui-même dans le livre s'inspire, en tout cas parle d'un livre de Jean Genet qui s'appelle Ce qui est resté d'un Rembrandt déchirant en petits carrés bien réguliers et foutu aux chiottes. Donc qui l'analyse en fait dans le livre en parallèle à Hegel. Ce principe de double colonne, il nous intéressait parce qu'en fait, vu qu'on a convoqué un grand nombre de textes, on voulait que chaque double page soit autonome et que le scénario renvoie au texte, que les textes se renvoient eux-mêmes, qu'il y a en fait une interpénétration entre les réflexions, les significations des textes. Et que cette multiplication, elle amène des nouvelles réflexions en fait, autant sur le fond des textes, mais sur la forme également, puisque ça crée une réflexion sur le langage en fait, tout simplement puisque des nouvelles notions apparaissent. Et c'est vrai que Derrida lui-même disait que pour le coup, GLAD, ce livre n'était pas lu parce que c'était un peu complexe à appréhender pour le lecteur. Et pour ça, moi, j'aimerais bien lire l'extrait de la quatrième de couverture de Bellevue, du livre, qui est un extrait des fragments de Nietzsche, qui parle aussi de ce genre de lecture, mais qui est un peu moins défaitiste que Derrida. Alors il dit « Un livre comme celui-ci n'est pas fait pour être lu à la suite, ni devant un public, mais pour être feuilleté, surtout en promenade ou en voyage. On doit pouvoir constamment y plonger et en sortir la tête, et ne plus rien trouver d'habituel autour de soi. »
Parce qu'il écrit des aphorismes.
C'est ça.
Et donc, moi j'ai vu l'exposition, j'étais au vernissage, et il y a quand même une certaine apologie de la gratuité qui est très ludique. Hein. Et c'est Pascal Oury qui s'appelle.
Pascal Doury, ouais.
C'est Doury. Oui. Et donc lui, il dit, j'ai donné mes fanzines. Mm-hmm. Là, je me suis mis à faire des journaux, et c'est bien mis en valeur dans l'exposition. Donc, on a du texte imprimé au mur, une super mise en page, mm-hmm, des murs, on peut le dire. Et on a une impression de fraîcheur, c'est un grand courant d'air, on est bien, quoi. On n'est pas opprimé, on n'est pas appelé à être moutonnier. Ça nous agace un peu aussi, ça peut paraître un peu abstrait. Enfin, c'est du texte au mur dans des caractères. Il y a beaucoup de typos différentes, ça danse, ça chante, des fois c'est assez rigide. Il y a évidemment une projection, il y a d'autres moyens, d'autres médias qui sont utilisés. Il y a des piles de livres énormes. Hein. Il y a Yona Friedman, par exemple, qui est un architecte utopiste.
En fait, on a essayé de rejouer la mise en page du livre sur les murs, c'est-à-dire donc d'imprimer des doubles pages en immense, en supprimant les images et en amenant en fait les multiples, donc que ce soit des livres, des gravures, tout type d'impressions, les fanzines de Pascal Doury aussi, qui sont en libre consultation et qu'on a en fait accroché sur les murs comme si c'était les images du livre.
Il y a beaucoup de livres en fait qui sont présents physiquement, et c'est des livres dans lesquels je pense que monsieur tout le monde, s'il y va, il va avoir de la peine à entrer, donc on espère qu'il sera bienveillant, hein, qu'il fera un petit effort et que ça l'amusera. Et je vous le conseille vivement, quoi. En plus, l'endroit est assez formidable. C'est Rockefeller qui a fait construire le bâtiment, la cité universitaire. C'est en face de l'arrêt du RER. Et ça a un côté dépaysant, fortement. Bon, la cité universitaire, déjà, elle est assez...
Oui, complètement.
Très étrange. Mmh. Et on va au sous-sol, donc on est dans l'étrangeté au carré. Hein.
Oui. Mais puis nous,
c'est un dictionnaire qui danse aussi, dans le sens où n'importe quelle encyclopédie. Un rapport d'enfant avec une encyclopédie. Mais avec du texte, pas d'illustration, donc il n'y a pas de facilité.
Oui, et puis c'est vrai que les livres, bon, ça reste pour la plupart des livres d'artistes qui ont du coup des formes, des formats assez différents, assez étonnants en fait, justement parce qu'ils proposent des réflexions sur l'objet éditorial. Donc c'est sûr que tout n'est pas accessible ou facile d'accès, mais ça pose des questions.
Il y a un côté fétichiste. Il y avait donc une dame qui a fait une espèce de show, de performance, comme on dit, la directrice Sylvie Boulanger. Et il y avait trois dames qui étaient assises sur un canapé qui était fait en livre. Donc on avait un côté Alice au Pays. Alors on peut prendre l'exemple, pour les Anglais, hein, les Limériques, tout ça, les berceuses, Alice au Pays des Merveilles. Ça peut être Alice au Pays des Merveilles, mais quand même, il y a un fort... Il y a une forte évidence des images dans Alice. Hein. Mais en fait, elles viennent quand même du texte. Hein, c'est pas... Quand les jeux... C'est un bon exemple aussi, c'est les jeux de cartes. Hein. Donc on peut imaginer des jeux, on peut... Enfin, évidemment, quoi.
Oui, c'est vrai que les
canapés... Quand tu feuillettes un fanzine, tu vois, avec des fortes personnalités, des gens très différents, tu as cette espèce d'étrangeté qui vient très vite, quoi. Et j'imagine que les tirages devraient quand même être très modestes, des objets d'origine...
Ben, ça dépend un peu des projets. C'est vrai que ben là, par exemple, le livre est tiré à 1000 exemplaires, donc
c'est pas mal.
C'est déjà conséquent.
Écoute, je te remercie d'être venu et on va écouter un petit morceau de musique.
Voy a ser el fuego abrasador, el que con su calor queme tus teorías que nunca funcionaron en la realidad. Voy a ser tu miedo, tu temor. Pues nunca te podrás escapar de mi voz, gritando una y otra vez, baja el gasto. Es muy difícil comprender si no te pones a leer. No seas otro idiota útil más. A vos que solo repetís un eslogan, te indignas por el tema que está de moda. Salí de Twitter, ya no te quedan neuronas. Te aviso, el estatismo va a caer. Voy a hacer ceniza tu pensar con solo argumentar, usando la razón. Seguramente me vas a censurar. Quiero ser el tiempo en tu reloj para así perpetuar toda tu humillación. Te pasa por esa fatal arrogancia. Es muy difícil de creer que tú.
Et donc voilà, nous sommes sur Allegre FM 93.1 et maintenant nous allons parler de La Rébellion est-elle passée à droite, de Pablo Stefanoni, qui vient de paraître à La Découverte. Alors je vous lis rapidement 2-3 lignes qui résument le propos général du livre. Les nouvelles droites sont à l'offensive un peu partout dans le monde, adoptant un langage, des références et des modes d'action inédits qui fabriquent une contre-culture violente et tapageuse. Elles combinent désormais nationalisme et humeur anti-étatique, racisme et sexisme, et clin d'œil à la communauté LGBTQ, climato-scepticisme et préoccupations écologistes. Leurs avatars les plus surprenants, l'anarcho-capitalisme, le libertarisme transhumaniste, le masculinisme gay, le féméno-nationalisme, l'écofascisme sont dotés d'une capacité notable de passer rapidement de la marginalité à la virtualité. Et donc on a un état des lieux et le temps n'est pas extensible à l'infini. On va essayer d'exposer ce qu'il en est de cet état des lieux. Et je propose qu'on commence par le mondialisme contre l'antimondialisme, la volonté d'abolir la politique, qui était déjà le projet des marxistes, hein, qui voulaient abolir la politique, qui voulaient gérer le monde de façon rationnelle. Et ce que j'ai intitulé ma première question, Reagan versus Trump. Alors, et je passe la parole à Monsieur Pablo Stefanoni.
Bonjour, merci pour m'inviter à cette émission. Effectivement, j'ai mis ce titre de la question si la rébellion est-elle passée à droite. Et je veux dire d'abord que je ne crois pas que la rébellion est nécessairement passé à droite, mais qu'il y a et qu'il n'y ait plus de rébellion à gauche, mais si qu'il y a des nouveautés dans les camps de la droite qu'on doit affronter, et surtout les émergences de formes de transgression anti-système, dans un moment où il y a une sorte, je pense, d'une crise existentielle de la gauche, et même peut-être surtout quand la gauche gagne, pas nécessairement quand la gauche ne peut pas gagner. Et je pense que l'émergence de Donald Trump a été un tournant pour les droites dans le monde, parce que c'était une sorte de carte de citoyenneté pour la alt-right, pour les droites alternatives, qui étaient, comme vous avez dit, dans la marginalité, et que avec Trump, on passait même à avoir un bureau dans la Maison Blanche, comme Steve Bannon et des autres. Alors je pense qu'il y a c'est un moment différent et j'ai essayé de parler un peu dans les livres d'une façon peut-être un peu impressionniste d'un climat d'époque où le non-conformisme, je pense, peut basculer entre la droite, cette droite alternative qui utilise de manière assez efficace l'Internet, des esthétiques transgressives, et la gauche. Et c'est une droite vraiment, c'est différent à la droite que vous avez mentionné, Reagan.
Ce que vous dites qui m'a paru remarquable comme trait, c'est des conservateurs qui n'ont plus rien à conserver.
Oui, c'est
la
ça.
La nouvelle droite, et vous citiez le Joker au début.
Oui.
Et si on voit Trump comme le Joker, on voit bien que le Joker n'a rien à conserver et c'est une très belle image. Enfin, elle n'explique rien, mais elle rend bien son contenu en tant qu'image.
Oui, c'est bien, je pense, parce que, bon, d'une part, c'est vrai qu'on peut dire que Trump est un conservateur, mais c'est vrai que, comme président, il a essayé de...
Il veut abolir la Constitution.
Oui, la Constitution, il a critiqué les institutions, il a affaibli beaucoup des institutions et des pactes non écrits aux États-Unis. Alors, c'est difficile de penser, même s'il parlait de la loi et l'ordre, c'est pas vraiment un gouvernement de loi et d'ordre. Dans différents...
Au contraire, c'est un punk au gouvernement, ça monte à l'envers.
Oui, c'est ça, c'est une sorte d'opposition dans l'État, non ? Dedans, et dans les institutions étatiques.
J'ai eu un souvenir, on en avait discuté, on faisait des petits journaux, justement, des petits journaux politiques d'ultra-gauche, oui. Et Reagan avait fait un gag où il allait appuyer sur le bouton pour déclencher la guerre atomique.
Oui.
Il dit, il doit tester un micro lors d'une inauguration de je ne sais pas quoi,
oui.
D'un lieu quelconque, et il dit 1, 2, 3, je vais pousser, vous êtes prêts pour la guerre atomique ? On a déjà le Joker, hein.
Oui.
Mais il respectait férocement les institutions.
Oui.
Il incarnait l'institution, cette espèce de... C'est vraiment une idée, et en fait c'était un gouvernement fort.
Oui. Je pense que c'est les Joker peut-être nous apporter des images, parce qu'il y a les Joker dans la Maison Blanche, effectivement, Trump c'était un peu comme ça, mais aussi les films Joker, je pense que ça nous dit beaucoup sur la possibilité de basculer des ambiguïtés maintenant dans la contestation, dans l'indignation. Quand il y a 12 ans, je pense, il y avait le livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel.
Oui.
Et on pensait que l'indignation, c'est plutôt de gauche contre la mondialisation.
Ça a donné Podemos. Hein,
néolibéral, c'était Podemos, c'était beaucoup... Occupy aux États-Unis. Et maintenant, je pense qu'il y a une ambiguïté assez profonde. On l'a vu... Ici, par exemple, en France, avec les manifs contre les...
Le vaccin.
Oui, et contre les gilets jaunes aussi, mais contre les pas sanitaires aussi. Il y avait anti-vaccins, il y avait fascistes, il y avait antisémites, il y avait un peu de tout, et un peu mélangé aussi. Alors, je pense que les films du Joker et les interprétations qu'on a lues, on parlait, bon, il y avait... Ce qui disait que c'était un film anticapitaliste, parce que c'était contre les riches et tout ça. Mais on pouvait penser aussi que c'était les typiques hommes blancs fâchés, les fachos fâchés, contre le système. Non? Alors, pour moi, c'était intéressant pour commencer le livre et pour parler de cette ambiguïté un peu structurelle que je pense qu'il y a aujourd'hui et sur le plan du non-conformisme autour de, au moins de l'Occident.
On a, je pense juste, enfin les idées me viennent, on a un très bon livre d'un dénommé Chapoutot sur les racines antiques du nazisme. Et quand on lit ça, on a l'impression d'un délire complet.
Ouais.
Et donc on voit bien l'articulation avec le Joker, par exemple.
Ah ouais.
On peut voir le Joker, si pas en Hitler, en un de ses seconds. Et les mecs, au dernier moment, ils sont encore en train de sortir leur revue SS avec un article sur la résistance de Sparte. Et tout est foutu. Ils ont plus que 2-3 villes allemandes. Ils sont encore en train de délirer là-dessus. Donc ce délire nous paraît Oh, puis on peut penser à Mussolini, enfin tout ce qui est délirant nous fait quand même passer au fascisme plutôt qu'au totalitarisme de gauche, mais peu importe.
Oui. La figure du Joker, faut savoir. Enfin bon, moi je suis le traducteur et l'éditeur de Pablo, mais je vis aussi en Amérique latine, donc je sais que le film a eu un grand succès un peu partout et en France aussi. Je sais pas s'il y a eu des débats en France sur la perception de.
À ma connaissance, non.
Non. Dans le monde anglo-saxon, il y a Slavoj Žižek qui s'est exprimé, d'autres pour dire non, c'est un grand film anticapitaliste. Oui. Michael Moore, le documentaliste. Mais ce qu'on sait moins, c'est que dans les milieux de l'alt-right, dans ces nouveaux milieux d'extrême droite, il y a une très forte identification au film Le Joker qui s'est exprimée dans des dizaines de blogs, etc.
Alors moi, je l'ai vu dans le Facebook francophone. Oui. J'ai un copain qui est devenu raciste, par exemple, et tout de suite, il en a parlé, enfin, qui est raciste aujourd'hui, oui. Et tout de suite, il a parlé du Joker. Là, je l'ai vu apparaître, dès que le film a été annoncé, il a dû être un des premiers à le voir. Et il vit à Lausanne. Donc on est dans une perspective.
Donc le livre de Pablo, c'est exactement ça, c'est se poser la question. Ça, c'est par exemple, c'est une cristallisation emblématique de cette humeur.
Cristallisation, oui.
De cette humeur flottante, ambiguë, parce que les gens eux-mêmes, des gens qui s'identifient à cette espèce de rébellion droitière, un peu punk, etc., ne se vivent pas comme fascistes ou éventuellement ne connaissent pas bien l'histoire du fascisme ou ne s'identifient pas par rapport à ces choses. N'empêche qu'il y a quelque chose d'une humeur qui se manifeste dans diverses choses et qui est déjà moins articulée. On en parlait avant l'émission, vous disiez, c'est encore au-delà de Soral et Dieudonné, parce que finalement, Soral, il est... Enfin, c'est pas un grand intellectuel, mais il est structuré, il a des repères, etc. Là, on est au-delà de ça, on est des gens qui captent des choses, des mèmes, des choses à travers des réseaux sociaux, etc., qui captent des figures de la pop culture, ça passe beaucoup par la pop culture. Et donc, à travers ça, Pablo a voulu à la fois tenir le debout, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est du niveau de la haute culture, au sens, y compris de la haute culture fasciste, conservatrice, traditionnelle. Donc, il parle d'intellectuels, il parle de gens qui écrivent des livres. Et puis, il parle de gens qui n'écrivent pas de livres et ne lisent pas des livres, mais fréquentent des blogs. Il y a des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs, etc. Comment tout ça... Il y en a aussi en France. On connaît les cas de Papacito...
Il y a un truc qui est marrant, c'est sur le côté pop. Martin a cité Nietzsche. Et on ne parle pas de l'idéologie du ressentiment, par exemple. Ça n'apparaît jamais à aucun moment dans le discours.
Non, parce que...
Mais le Joker, on a une espèce de d'incarnation réelle du ressentiment.
Oui, mais
ça peut se résumer à un immense ressentiment sans contenu.
Oui, mais en même temps, c'est très complexe, parce qu'en même temps, vous avez tous les idéologues, que ce soit les idéologues grands intellectuels qui écrivent des livres, que les idéologues de YouTube, etc., qui disent que c'est la gauche qui fait du ressentiment. Nous, on est allègres, joyeux, provocateurs, ironiques. Ils comprennent pas notre humour. Ce sont eux, les ressentimentaux. C'est les gauchias.
Ils font la morale. C'est pas le ressentiment. Ils font la morale.
Ils sont des sermonneurs parce qu'au fond, finalement, leur base, c'est le ressentiment. En plus, ce sont des hypocrites.
Alors, le chapitre suivant, c'est sur le politiquement incorrect.
Oui, c'est ça. Parce que
c'est justement ça la problématique.
Oui, c'est ça.
La transgression contre tout ce qui est... Le racisme, c'est mal, donc c'est bien.
Oui, et la possibilité de dire que c'était ironique.
Vous pouvez bien
dire Heil Hitler, et après, si vous...
Je fais Heil Hitler, mais c'est ça.
Je dis non, mais c'était ironique, c'est vous qui vous prenez tout d'une façon trop littérale et tout ça. Et je pense que tous les débats sur le politiquement correct nous a... a construit une image du monde que c'est assez intéressante parce que pour les nouvelles extrêmes droits, on peut dire, ou les droits alternatifs, c'est le monde actuel est dirigé par la gauche, ce qui n'est absolument pas l'état d'âme de la gauche, non? Si on voit n'importe quel meeting ou colloque de gauche, il y a en général des frustrations, l'image qu'on peut rien changer, on peut rien faire, non?
Non, mais c'est le
truc de l'école. Si on gagne les élections, même quand on gagne, parce qu'en Espagne, par exemple, Podemos est au pouvoir.
En Grèce, c'est la même chose.
Ouais. Alors, il y a des images... opposé, parce que pour la gauche, c'est la droite qui contrôle le monde, les médias, les institutions internationales, et les gouvernements, et pour les droits alternatifs, et ça c'est indifférent, je pense, avec, vous avez mentionné Reagan, Thatcher aussi, on peut ajouter, parce qu'il avait une habitude différente, parce qu'il avait gagné la guerre froide, et il pensait qu'il avait gagné. Mais cette extrême droite pense qu'ils ont perdu complètement la guerre culturelle, que la gauche avec Gramsci et tout ça avait vraiment réussi à capturer, à récupérer l'essence commune de des sociétés. Alors, il parle de nouveau totalitarisme, du politiquement correct, du wokisme, qui ici en France, bon, vous le connaissez mieux que moi, parce que c'est, je pense, le seul pays au dehors des États-Unis où on parle une fois et une autre sur le wokisme, le marxisme culturel, comme un mot qui peut remplacer le communisme. Et même, on parle du communisme dans de nombreux pays, non? Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont construit des images un peu intéressantes des élites de gauche qui gouvernent la mondialisation, le monde, et les petits gens qui sont opprimés par la gauche, non? Alors, c'est intéressant parce que je pense que ça permet à cette droite de récupérer un peu les non-conformismes, que, par exemple contre les politiciens, contre, bon, en général contre les partis traditionnels, soit les sociaux-démocrates ou les conservateurs. Alors, je pense que c'est
contre les élites culturelles qui font des expositions en faisant référence à Derrida, etc.
Et oui, c'est ça. Et selon ces droits, on ne peut rien dire parce qu'il y a la censure partout. On ne peut rien manger parce qu'on peut manger de la viande. On ne peut rien faire. Bref. Alors, c'est intéressant parce que je pense que les néocons et la révolution conservatrice avaient vraiment la conscience d'avoir gagné. Ils parlaient de la fin de l'histoire et tout ça, non? Alors, pendant que maintenant, ils parlent de l'extrême droite parle d'elle-même comme si elle était à la résistance, pas dans les places vraiment du pouvoir, d'influence culturelle et tout ça. Et ils sont vraiment attirés par le personnage de Gramsci, non? C'est Antonio Gramsci.
Je pense que l'exemple de l'école de Francfort aussi est très amusant, oui. Parce que c'est un syntagme creux, ils ont transformé, c'est des mots comme ça. Et ça, par exemple, en France, ça fonctionnerait pas, l'exemple de... Aucun des deux ne fonctionnerait. Et peut-être que sur la forte imprégnation du terme wokisme en France, il faut voir l'aspect moralisateur, l'aspect droit de l'homme de la France. Elle fait quand même la morale, elle sait. Elle est mieux placée que les autres pays et elle ignore tout à fait son... Elle ne fait pas autocritique, soit effectivement sur son passé colonial ou des choses comme ça. Et elle dit le juste et le vrai et le bien et s'est appuyée sur 1789, hein, purement et simplement, sur la décapitation du roi et la prise de la Bastille. Et c'est très présent. C'est très présent dans l'institution scolaire, par exemple. Ça se reproduit.
Mais je crois que ce qui fait une des choses qui fait l'intérêt du livre de Pablo, c'est aussi justement qu'il est argentin. Alors qu'est-ce que ça veut dire être argentin? Ça veut dire qu'il a, dans ce que vous dites sur le wokisme, pourquoi ça a pris en France et pas tellement dans les pays hispanophones où on parle peu de la question.
Ou les pays européens.
C'est parce qu'il y a une querelle des universalismes entre les États-Unis et la France. Il y a une rivalité symbolique très très forte. Et il y a une paranoïa dans le républicanisme fondamentaliste. Hier, c'était le communautarisme, ensuite l'islamo-gauchisme. En plus, il y a une obsolescence médiatique très rapide. L'islamo-gauchisme s'épuisait au bout de quelques mois. Donc en octobre, on importe Valeurs Actuelles, Causeur et tous ces milieux-là importent le wokisme comme la grande menace de l'Occident. Bon, il y a un aspect comique ou tragicomique dans cette affaire. Mais pourquoi un Argentin le voit bien? Parce que justement, il voit ces circulations transatlantiques d'un point de vue extérieur. Il fait une espèce de triangulation parce qu'il reçoit. Il y a beaucoup d'influences culturelles de la France en Argentine. Mais évidemment, ils y sont aussi dans le continent américain. Ils ne sont pas exactement des latino-américains comme les autres. Il y a une européanité un peu spéciale, fantasmée chez les Argentins. Et donc, le livre donne comment les mèmes et les tropes culturelles circulent des deux côtés de l'Atlantique et d'un regard extérieur qui permet de voir des choses que parfois les Français ne voient pas.
J'ai une anecdote alors là-dessus. Henri Michaud, qui était belge, reçoit la nationalité française et on le publie en Pléiade. Et il met des notes à tonalité morale après dans son... Un barbare en Asie serait considéré comme un livre raciste aujourd'hui. Et donc, déjà, il le sent. Maintenant qu'il est devenu français, qu'il appartient à la patrie des droits de l'homme, il ne peut plus avoir ces propos qu'il avait en tant que Belge. C'est une remarque de Simon Leys. Et Simon Leys, c'est quelqu'un qui était anti-maoïste, anti-totalitaire, qui a eu beaucoup d'importance dans ce domaine. Et c'est Simon Leys qui fait un article là-dessus. Simon Leys est en Belge aussi. Et donc on voit bien, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que tout l'éclairage, tout la partie ping-pong américain-français fonctionne bien, parce qu'il se place à un point de vue... Parce qu'il y a aussi la révolution américaine, en fait. Oui. Donc c'est la suivante, hein. Et oui. Il nous parle tout le temps des pères de la nation, et puis il y a un rapport très très fort avec Lafayette, Franklin, je sais pas.
Oui, l'idée de déclin,
très très fort.
Et tout ça.
Ah oui, bien sûr. Et puis d'incarner la civilisation.
Oui, c'est ça.
Et alors, on pourrait peut-être, parce que le temps passe vite, parler du libertarisme.
Oui.
Ou de la sexualité, du ping-washing,
oui.
Pour dire ce qu'il y a dans le livre, quoi. Il y a le libertarisme et puis le... Les gays fachos, cette nouvelle invention. Encore que comme il y avait des nazis.
Oui, bien sûr.
Film superbe où on voit les 16 tuer tous les SA. Donc,
oui, c'est ça. Hein. Non, j'ai pensé que c'était intéressant de voir un peu ce qui n'était pas évident, parce que si on dit bon, la droite, l'extrême droite est homophobe, c'est assez évident. Si on dit il y a des négationnistes du changement climatique, c'est aussi assez évident sur le populisme de droite, mais j'ai pensé que c'était intéressant de voir quelque chose qui soit un peu plus compliqué pour les progressistes, parce que je voulais... C'est vrai que c'est un livre sur l'extrême droite, mais c'est aussi un livre sur la gauche, pour moi, de voir un peu quels sont les problèmes de la gauche et pourquoi il y a, comme climat de l'époque, ces sensations que ce n'est pas possible la révolution, mais ce n'est pas possible non plus la réforme. Il y a aussi l'impuissance, non, et politique. Et je l'ai lié un peu à la crise de l'idée du futur, que ce n'est pas bon, trop original. Mais et je pense qu'il y a tous ces problèmes de la rétro-utopia et le catastrophisme, un peu comment l'idée du futur est un peu bouché, et ça c'est vraiment problématique pour les gauches, parce que bon, si Marx disait que la révolution devait prendre la poésie du futur, aujourd'hui on peut se demander quel est le futur, pour quelle poésie nous donne le futur, s'il n'y a pas, le futur est vraiment suspendu, bougé, il n'y a pas vraiment, il y a beaucoup de... Alors je pense que Et s'il n'y a pas l'utopie dans le futur, on va chercher les utopies dans le passé, ce qu'ils ont fait dans ces cas. Trump, quand il parle de bon, de Make America Great Again et des autres extrêmes droits, qui cherchent à trouver un berceau mythique de la nation et tout ça, non? Alors, mais j'ai ajouté aussi ces questions de la sexualité, parce que c'est pas... Dans toute l'histoire, il y avait des gays d'extrême droite ou fascistes, mais maintenant, je pense que c'est un peu... il y a des opérations intéressantes de la droite. Et même au nord de l'Europe, il y a les liens entre la laïcité, de dire, bon, c'est nous, la droite, qui vraiment défendons les droits à la diversité, parce que nous sommes contre l'immigration islamique et tout ça. Et si vous permettez tout ça, les grands remplacements et tout ça, tous les quartiers vont être contrôlés par les islamistes. Alors... Et c'est nous qui défendons. Alors, c'est intéressant, parce que ce sont des drapeaux qu'on pensait que c'était plutôt à gauche et qui ont été résignifiés par la droite. Et je pense que c'est un peu la même chose avec l'écofascisme, quand Marine Le Pen parle d'une nouvelle civilisation écologique et tout ça.
Ce qui est extraordinaire, c'est Tel Aviv, pardon.
Ah oui.
Quand la première fois que j'ai lu un compte-rendu d'un livre où on expliquait que les Israéliens instrumentalisaient la cause gay,
oui,
pour médire en fait des Palestiniens, pour montrer les Palestiniens comme des gens réactionnaires qui ne supportaient rien, qui étaient anti-liberté.
Ouais.
J'ai eu un choc. Hein. C'était il y a 10 ans, on avait une revue qui s'appelait, qui était comme Book, mais qui en était une autre, qui n'existe plus, qui référençait les livres très à gauche politiquement, et c'était un compte-rendu de livres, et j'avais un peu le souffle coupé parce que c'était vraiment très intelligent et très très chaud. Très, c'est typiquement le genre de débat qui part en couille très vite et où les gens deviennent très violents si on lance un débat comme ça. Et donc, c'est un truc de soft power quand même très dynamique. Ils organisent une gay parade à Tel Aviv, qui est l'affirmation d'Israël comme démocratie, oui, contre ces vilains dictateurs du Hamas, du djihad islamique, de je ne sais pas quoi, des méchants barbares qui ne supportent rien. Vous affrontez pas du tout dans votre livre la question de la PMA et des choses comme ça. C'est aussi quelque chose qui est très vaseux.
Sur la question gay, c'est assez important parce que c'est plus... Effectivement, il y a eu des traditions et des affinités avec certains mondes gays homosexuels dans le fascisme traditionnel qui est lié à l'idée de l'homosocialité guerrière, parce que bon, vous parliez de Sparte, etc. Ouais. Mais là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose de nouveau. D'abord, une plus grande acceptation sociale qui fait que... Bon, ben, vous aviez le numéro 2 du Front National, exact, Philippot, mais vous avez la dirigeante de, comment elle s'appelle, de
Annie Weidel, par exemple, en alternative pour l'Allemagne.
Elle est lesbienne ouvertement, et elle vit avec une femme de migrante, en plus.
Oui, d'origine.
Et ça, c'est quelque chose. D'abord, il y a une, alors c'est compliqué parce qu'au sein du Rassemblement National, il y a une guerre fratricide sur cette question, puisque maintenant il y a les anciens qui sont restés avec le père Jean-Marie Le Pen, ils disent Marine, c'est la Madone des PD, quoi, les entourées de gays.
Mais elle a monté ça aussi, c'est du soft power.
Oui,
c'est bien. Sans truc, je suis la diva des boîtes de nuit.
Oui.
Et donc
c'est du soft power. Il y a diverses nuances. Il rentre dans les nuances parce qu'il y a aussi un masculinisme gay
on en a marre de se faire
qui sont pour morale. Qui sont pour un masculinisme fort, mais avec homosocialité, et finalement on s'éloigne du monde des femmes. Mais il y a de tout. Il y a aussi des femmes qui se prétendent féministes aujourd'hui et qui disent par quoi est menacée la liberté des mœurs et la liberté des femmes
par
l'islam. Donc toutes ces nuances, qui ne sont pas tous d'accord entre eux en plus, mais qui arrivent à cohabiter sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est travaillé de façon assez précise, et toujours avec cette dimension transatlantique. Comment ça se passe aux États-Unis, qui est un peu pionnière sur certaines choses, mais comment ça se passe en France, où il y a des... Y compris, c'est significatif de voir ce qui est traduit et ce qui n'est pas traduit, ce qui est transmis et ce qui n'est pas transmis, qui est lié aux idiosyncrasies spécifiques de la France, des États-Unis, etc.
Et de plus en plus, je pense que les extrêmes droites, ils disent ne pas être contre les gays ou les lesbiennes, mais contre les mouvements LGBTQ. Et contre, vraiment, c'est contre le progressisme. Je pense que ça, c'est un peu différent du passé, qu'il y avait une idée de la sexualité, tout ça, plus hégémonique. Et je pense que, il y a de plus en plus de femmes aussi à la tête des extrêmes droites, non? Bon, vous le savez bien ici, parce qu'il y a Marine Le Pen depuis longtemps, mais maintenant Mélanie en Italie, Alice Weidel en Allemagne, il y a en Espagne, et il y a des très importantes dirigeantes de Vox, et je pense que ça, c'est un peu la même opération, non? Nous acceptons les femmes, mais pas le féminisme, il y a un discours plus idéologique, et même des femmes d'extrême droite disent nous sommes les vrais féminismes, c'est à nous, c'est pas au progressisme. Alors il y a un débat que je pense que c'est un peu plus compliqué pour les progressismes qu'avant.
C'est si on remonte à l'affaire Dreyfus en France, pour le prendre depuis la France, on a donc une très forte récrimination, et on va avoir aussi toute l'opposition anarchiste qui va disparaître en 1914 à cause d'un courant nationaliste très fort. Les mecs vont complètement disparaître.
Oui.
Mais en même temps, on a la montée du Parti communiste, on a le souvenir de la Commune, etc. Donc là, ce qui nous manque, c'est le souvenir de la Commune et puis la montée du Parti communiste. On n'a que des anti-Dreyfusards qui tiennent. C'est des punks, hein. Et là, si ça marche vraiment bien avec les anti-Dreyfusards et puis tous les écrivains de droite qui, paraît-il, ont tellement de style et qui font des aphorismes très brillants, c'était des punks. Donc c'était à qui dirait la plus grosse connerie. Et tout au long du 19e siècle, ils sont orduriers. Si on prend par exemple Dumas, le fils, quand il insulte Courbet, sur cette question du réalisme, hein, c'est toujours cette question droite-gauche, etc. C'est la même, ça a la même tonalité que les insultes antisémites. Oui. Et ça se renouvelle absolument pas. On va trouver dans un pamphlet de Cioran les mêmes mots, la même vermine et machins comme ça, qu'on trouvait au milieu du 19e siècle, avec à peu près les mêmes enjeux qui s'appellent autrement, mais qui sont les mêmes. Et donc on est à un tournant, c'est quelque chose, ça fait peur.
La différence, c'est qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par des mêmes idéologies qui sont infra-livresques. Et donc les gens font plus facilement du bricolage, parce qu'ils se chopent ça, à droite, à gauche, sur tel YouTuber, tel TikToker, etc. C'est-à-dire que même ceux qui prétendaient être semi-apolitiques, comme Nimier ou des gens comme ça, qui n'étaient pas Céline de point de vue de la virulence, ils savaient à quoi ils faisaient référence. Ils savaient que leurs amis, c'était les collaborateurs. Les collaborateurs, les vichysois. Aujourd'hui, vous avez des gens qui reprennent des mèmes sans trop savoir, y compris, par exemple, la question dans les manifs anti-vaccins avait paru cette affiche « Qui ?» qui est effectivement un trope antisémite. Mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont mise sans savoir que c'est un trope antisémite. Pour eux, c'est un trope conspirationniste. Il y a des puissants. Alors, ça peut être les Illuminati, ça peut être
Mais ça ne change pas grand-chose, puisqu'ils ne connaissent pas les Juifs non plus.
Oui, mais
c'est de toute façon une fiction.
Oui. Non, mais après, au niveau politique, c'est très dangereux parce que c'est canalisé et en profite des gens qui savent.
Il faudrait mettre un peu la pédale douce sur cette histoire d'Internet, parce que vous pensez Khomeini, par exemple, avec un système de cassettes, de radio, etc., quand il prend le pouvoir.
Non, je suis d'accord.
Il faut penser l'invention de la radio, les journaux. Il faut penser. Quand on s'intéresse un peu à la lutte des classes, on a une exposition là de petits journaux. S'il y a quelque chose qui est important, il faut imaginer, je sais pas, moi, dans un bassin industriel où les typographes faisaient des journaux pour des gens. Personne ne savait lire, il y a quelqu'un qui lisait le journal. L'importance que ça avait quand ça débarquait dans un milieu il y avait une coupure très forte entre le milieu ouvrier et la classe dirigeante, et puis cette toute petite minorité d'artisans qui savaient lire et écrire, qui s'est mis à faire de la propagande sous forme de publication dès le début du 19e siècle, hein, c'est extraordinaire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers l'Internet et les réseaux sociaux, c'est des éléments encore plus brefs qui permettent des bricolages encore plus cohérents, incohérents et semi-conscients.
C'est technique, mais c'est pas l'effet de sens, ne vient pas d'Internet.
Mais vous le voyez dans le mouvement anti-vaccin, ou par exemple, moi je sais pas, en fait j'ai pas beaucoup observé ce qui se passait en France, mais en Italie, comme disaient des amis, qu'il y a eu des grandes manifestations anti-vaccin. Il me dit, la majorité des gens qui sont anti-vaccins, c'est un peu des néo-hippies bio qui se méfient de la médecine, etc. Et ça ne les dérange pas de manifester et de se faire manipuler à côté de Forza Nuova ou de Casagrande, qui sont les groupes d'extrême droite italiens, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils n'ont même plus une capacité de déchiffrement qu'un ouvrier en 1936, il aurait su faire la différence entre une manif d'extrême droite et une manif de...
C'est ça
le truc. Il n'y a plus cette culture-là.
Je me suis fait prendre dans une toute petite rue. Je crois que c'était à la rue des Saints-Pères, par la manif des anti-vaccins. Là. C'était assez affolant. Et la tonalité faisait très extrême droite. Mmh. Ils cherchaient le contact, ils voulaient que ça passe dans l'affrontement.
Oui.
Ils avaient ce comportement viril. Et les femmes aussi, enfin, comme ça se passe. Hein, ils n'étaient pas du tout...
Je crois qu'il y a eu carrément certains services de sécurité à un moment de manif... Antivax, c'était les Zouaves Paris, enfin, c'était un peu des groupuscules ultra-violents.
Oui, parce que les plus organisés sont capables de manipuler et de canaliser des gens qui sont dans une espèce de magma.
Bien sûr.
Et donc, dans 5 minutes, ça va être fini. Alors, Pablo, qu'est-ce qu'on a manqué d'important à propos du livre ?
Qu'est-ce qu'on a manqué ? Je pense que... Non, je pense qu'on a abordé beaucoup de choses. Je peux ajouter... L'importance peut-être de cette mémisation de la politique, par exemple aux États-Unis, et Pepe the Frog, que c'est Pepe la grenouille, que peut-être vous connaissez, nazi, c'était pas de droite, c'était. L'extrême droite de 4chan, que c'est une plateforme importante, qui a été importante à la campagne de Trump, a récupéré. Pepe the Frog, et même Hillary Clinton a fini par polémiser, par discuter avec et en même. Alors, c'était un peu ces confusions entre la politique, entre les différents niveaux, non? Et je pense que c'est important pour déchiffrer un peu ces rhizomes qu'on peut voir aujourd'hui et qui fait difficile de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est ces nouvelles droites. Parce que ce ne sont pas seulement les partis ou les mouvements organisés, mais une marque main, on dit, et un peu plus épandu par toute la société. Et je pense que ça, c'est vraiment la nouveauté et les défis pour les progressistes.
Je suis tout à fait d'accord. On va écouter le générique de fin. Nous étions sur Allegre FM 93.1. On parlait avec Pablo Stefanoni de La rébellion est-elle passée à droite, et puis d'une exposition. Vas-y, dis où c'est.
Acquis à la cité universitaire dans les locaux du CNAI qui s'appelle The Walls, et d'un livre qui est en parallèle qui s'appelle Bellevue.
Merci d'être venu et au revoir.
Au revoir.